de Lucas Vázquez. La pide Benzema, la pone Lucas Benzema. ¡Taconazo! Uruguayo Cristiano Oliva jugando y para. La carrera de José Lu, golpeo, golazo.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des podcasts Ligue Actu. On parlait la semaine dernière de choc, on parlait de gros matchs et on en a un nouveau cette semaine dans ce match en milieu de semaine, un jeudi soir, un match de la 33e journée de Liga bien sûr, championnat qui avance, qui se rapproche comme on a la coutume de le dire ces derniers temps, qui se rapproche de sa fin. Mais effectivement les matchs avancent et on va parler aujourd'hui de ce choc entre la Real Sociedad et puis le Barça, choc du jeudi soir à 21h30. On retrouve, pour nous parler de la Real Sociedad, on retrouve Lucas qui est de nouveau dans les podcasts. Comment tu vas, Lucas?
Salut Ruben, je vais très bien, très content de venir parler de ce choc de Liga, bien que ce se joue à un jour d'Europa League. Mais je suis très 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 content de venir ici pour évoquer cet énorme match qui sera décisif pour la fin de saison.
Ouais, effectivement, un match où tu le dis est décisif et puis effectivement qui se joue sur un jeudi, l'Europa League, voilà, que les deux équipes ont connu cette saison. Salut Sacha, comment tu vas? Ça me permet de te passer la parole, même si c'est vrai qu'on a cru comprendre déjà un peu avant le podcast que c'était pas la folie non plus.
Non, c'est pas la folie, tu vois. Le moral est en raccord avec la météo. On a passé plusieurs jours près de Toulouse dans le soleil, dans le beau temps. Là, aujourd'hui, il fait gris, il pleut, c'est terne. Ben voilà, c'est comme les derniers jours qui se sont écoulés du côté du Barça, avec d'un coup d'un seul, la saison qui a pris un tournant radicalement différent. Bon, j'avais parlé déjà dans les podcasts précédents que je ne croyais pas trop au titre parce que mathématiquement, c'était quand même assez... C'est incroyable, hein. Si jamais on arrive à le faire, il fallait que Madrid perde beaucoup. Mais là, se faire éliminer coup sur coup de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, pardon, et de perdre tout espoir de titre, parce qu'il en restait quand même un petit peu. Voilà, le moral est touché, mais bon, on est là pour parler de ce superbe match qui nous attend.
Ouais, tout à fait. Et puis tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a eu un changement de dynamique assez brutal. On va y revenir justement un peu plus tard dans le podcast, mais tu fais bien en tout cas de commencer à l'évoquer. On va commencer par parler de la Real, donc qui recevra ce jeudi soir le Barça, comme je l'ai dit au début. C'est vrai que finalement cette Real Sociedad avait eu à un moment un petit trou d'air. Il y avait eu un coup de mou. Il y a encore quelques mois, au mois de février, janvier, on sentait que cette Real décrochait un peu, mais mine de rien, elle s'accroche à son rêve de se qualifier en Champions League, cette Real Sociedad. Et puis il faut dire que l'écart est assez maigre au final, puisque pour le moment la Real a que quand même 5 points de retard sur Atlético 4e. Pour toi, Lucas, est-ce que ce match symbolise un tournant dans la fin de saison?
Mais totalement. Donc c'est un peu notre finale. Enfin, ça va être le match va conditionner, je pense, cette fin de saison. On a déjà eu le match contre le Betis qui, en cas de victoire ou défaite, aurait pu déjà nous donner une indication sur notre fin de saison et notre classement à la fin des 38 journées. Mais bon, il y a eu match nul, donc ça a encore laissé du suspense. Et ce match à venir contre le Barça va être totalement, enfin, va être super important. Donc déjà, il va nous permettre de reprendre 3 points sur le Barça en cas de victoire ou de perdre 3 points sur le Barça en cas de défaite. Donc déjà, ça va permettre de nous rapprocher ou ça va nous éloigner d'un concurrent direct. Et aussi, ça va nous permettre de nous éloigner, enfin, de nous rapprocher ou de rester au contact des adversaires qui ont plus de points que nous en cas de déroute. Et donc tu parlais de notre trou d'air, donc forcément oui, à un moment on a beaucoup baissé de régime, on croyait que c'était un peu foutu, sauf que au moment où on s'est quand même remis un peu à gagner, à ne pas perdre trop de points, à ne pas gâcher trop de points, certaines autres équipes ont commencé elles aussi à avoir un trou d'air. Je pense au Betis qui est actuellement un peu en difficulté ou qui a peut-être la tête en finale de Copa, et le FC Séville qui va peut-être sortir du top 4 dans les dernières journées, donc laisser un ticket, donc comme on en parlait avec Sacha, entre le Betis et la Real. Donc Oui, c'est clairement le money time, c'est là où les points comptent double, où l'erreur n'est plus permise, car il reste plus assez de matchs pour pouvoir avoir des matchs joker. Et contre tout, déjà les plus petits clubs, il faut absolument gagner et essayer de limiter la casse, voire prendre des points contre les gros clubs et les concurrents directs, parce que c'est contre ces équipes-là que les différences se créent et que les places changent au classement. Et donc oui, pour conclure, ce match contre le Barça va conditionner notre fin de saison, parce qu'en cas de défaite, ça va être très très compliqué de raccrocher les places au-dessus, parce que nos adversaires aussi sont obligés de gagner leur dernier match.
Ouais, tout à fait. Et puis bah, d'ailleurs, je me permets un peu d'allonger la question sur un point plus rapide. Mais c'est vrai que toi, comment tu expliques un peu que cette Real justement aille mieux, enfin du moins joue mieux et puis se sente mieux, alors que justement il y a quand même un joueur comme Mikel Oyarzabal qui est quand même le capitaine et le leader de cette Real qui est plus là maintenant depuis plusieurs semaines. Toi, comment tu expliques un peu pour un peu plus, on va dire, rallonger cette question, comment tu expliques que cette Real aille un peu mieux ces derniers temps malgré son absence?
Enfin, Mikel Oyarzabal était un des leaders hors et sur le terrain. Et en son absence, certains joueurs ont su parfaitement prendre la relève. Donc, comme David Silva, donc lui, bon, qui est un joueur d'expérience, mais qui avant était un des leaders, mais pas forcément autant affirmé, et il nous sort vraiment des grosses grosses performances. D'ailleurs, il sera sûrement pas là jeudi. On a aussi Mikel Merino qui sort de très très gros matchs, qui est vraiment un des leaders depuis le départ de Mikel Oyarzabal. Et aussi on a un peu Robin Lenormand qui devient un peu le leader de cette solidité défensive derrière. C'est lui qui resserre un peu les rangs derrière. On voit de plus en plus qu'il commence à s'affirmer sur le terrain et qui prend un peu ce leader derrière, enfin, ce leadership derrière. Et donc c'est pas le travail d'un homme comme Mikel Oyarzabal, mais là c'est vraiment toute l'équipe qui est soudée ensemble, et il n'y a pas vraiment de leader devant tout seul qui entraîne ses troupes. C'est vraiment toute l'équipe ensemble qui arrive à se motiver elle-même et à se faire en sorte que toute l'équipe sorte de gros matchs.
Ouais, donc l'unité d'un collectif, on va dire, qui permet de ramener cette Real à un haut niveau, puisque donc tu disais, c'est vrai qu'il y a eu des matchs décisifs qui ont été remportés, et puis surtout voilà d'autres matchs importants qui arrivent, et notamment celui-là contre le Barça. Le Barça, justement, ça, bah, je vais passer avec toi. C'est vrai qu'il y a encore une semaine, ce Barça était, on va dire, proche d'aller en demi-finale d'Europa League, était pourquoi pas, enfin pensait même pourquoi pas remporter cette Europa League et envisageait même de se battre jusqu'au bout pour remporter la Liga. Même nous, quand on avait parlé par message dans notre groupe, je t'avais dit que moi, contre Francfort et contre Cadiz, pour moi ça le ferait. Et au final, non, pas du tout. Il y a eu donc cette élimination contre Francfort au Camp Nou et puis cette autre défaite au Camp Nou donc contre Cadiz ce lundi soir. Toi, pour t'avoir, comment tu expliques un tel naufrage en l'espace d'une semaine?
C'est très très compliqué à expliquer. C'est vrai que la semaine dernière, on était en pleine euphorie. Voilà, on sortait d'une superbe victoire contre le Séville de Lopetegui grâce à un but de Pedri. Il y avait cette victoire en forceps face à l'Ebante. Ce résultat un partout, pareil en Allemagne, bon, qui laissait quand même présager un bon avenir dans la compétition, parce que même si il n'y a plus la règle du but à l'extérieur, ne pas perdre à l'extérieur, ça reste une bonne performance en compétition européenne. Et puis patatras, quoi, j'ai envie de dire, comme on dit en Espagne, un golpe de realidad, c'est voilà la réalité qui te rattrape. C'est très troublant, très très difficile à vivre, parce que on se faisait forcément des films hein, sur cette fin de saison, comme je l'ai dit un peu en introduction. Voilà, c'est un retour maintenant à l'austérité, si je puis dire, et à cette quête de la seconde place qui nous qualifierait directement pour la, enfin, qui nous qualifierait même pas directement, qui nous qualifierait pour la Super Coupe d'Espagne. Voilà, on n'a plus que 7 matchs maintenant devant nous, et il va falloir tous les gagner, notamment le prochain là contre la Real Sociedad qu'on est en train de préparer. Mais alors, comment je l'explique? Ben, il y a plusieurs facteurs. Déjà, je pense qu'on peut voir que cette équipe, elle est un peu plus fatiguée quand même. Il y a quand même pas mal de joueurs aussi qui sont revenus peut-être un peu plus usé de la trêve internationale. On avait vu l'année dernière sous Ronald Koeman qu'il y avait une vraie différence avant et après la trêve. Le match d'avant la trêve, c'était justement contre la Real Sociedad. On s'était imposé 6-1, un résultat historique et complètement fou du côté d'Anoeta. Ben là, on s'était imposé 4-0 au Bernabéu juste avant cette trêve. Et on retrouve un Barça qui, au début, a masqué un peu certaines carences avec des résultats, mais qui, très vite, très vite, les performances de l'équipe n'ont pas suffi. Et on peut, pour ajouter à la thèse de cette fatigue, parler des blessures, hein, qui sont survenues. Alors, on peut voir aussi que la défense du Barça est beaucoup plus fébrile depuis que Piqué est sur la touche. Alors, il devrait normalement revenir, on y reviendra plus tard, pour ce match contre la Real, mais voilà, depuis que Piqué n'est plus sur le terrain, ben c'est un but encaissé à Francfort, c'est deux buts encaissés à Levante, trois buts encaissés à nouveau contre Francfort, et hier, encore une fois, un but encaissé contre Cadiz. Et on voit une défense qui est beaucoup moins sûre d'elle, qui est beaucoup moins bonne dans la relance. Eric Garcia, il essaye de tenir la baraque, mais en plus, quand il n'y a pas Ronald Araujo, qui était suspendu pour l'occasion d'hier soir contre Cadiz, ça devient trop compliqué. Donc déjà, le secteur défensif, on en a énormément souffert. Pareil, on a vu au cours des dernières années que le Barça avait un vrai problème au niveau de l'arrière droit. Et cette saison, bon, Dest, tant bien que mal, je trouve qu'il fait quand même des performances, enfin, qu'il réalise des performances assez intéressantes. Sauf que contre Francfort, il n'a pas du tout été là, parce qu'il s'était blessé contre Galatasaray. Et on l'a payé cash. Certes, Ronald Araujo était un peu pompier de service, mais ça n'a pas suffi au match aller. Et au match retour, on peut pas dire que Minguesa était vraiment bon. Il a passé la plupart de son match à souffrir et à ne pas apporter ce qu'un arrière droit devrait apporter. Donc voilà, c'est une machine qui s'est petit à petit chargée de grains de sable, et ces grains de sable sont devenus des petits cailloux, et ça l'a complètement enrayé. Et puis, un autre aspect majeur, c'est quand même l'événement de cette semaine, le tragique événement de cette semaine, si je puis dire ainsi, c'est l'invasion allemande au Camp Nou, voilà, avec des socios qui ont perdu littéralement la face, ces socios qui ont vendu leur place aux Allemands pour justement faire un peu d'argent, estimant, je ne sais pour quelle raison, qu'un quart de finale retour de Ligue Europa ne nécessitait pas un soutien inconditionnel de la part de ses fans. Je pense qu'on peut tous faire une thèse sur pour qui votent ces gens depuis pas mal d'élections. Voilà, rappelons que la période Bartomeu, enfin la période Rossell Bartomeu plutôt, a été permise pendant 10 ans. On comprend peut-être mieux aussi pourquoi aujourd'hui, voilà, bien sûr, ce sont aussi ces gens-là qui sont les premiers à crier au loup et à la démission de Joan Laporta. Donc, une ambiance délétère qui a forcément aussi rejailli sur les joueurs. Je pense que quand vous êtes joueur du Barça, que vous avez un match aussi important face à Francfort et que vous arrivez dans un Camp Nou qui est paré de blancs et qui parle allemand, forcément ça doit être troublant, et ça vient consolider la thèse, ben, de la surprise, du manque de repères. Et c'est ce qui amène aussi peut-être cette erreur d'Eric Garcia qui provoque un penalty, un but très tôt dans le match pour Francfort, qui reconditionne totalement d'ailleurs cette double confrontation. Donc voilà, ce sont plusieurs explications, les blessures, l'environnement du club, qui font que malheureusement, en 3 ou 4 jours, la saison du Barça, comme on l'a très bien dit, eh bien, a pris un virage totalement inespéré de notre part, et qui est tragique, mais qui, bon, il y a encore dans cette équipe pas mal de force. On peut aussi, ben, repenser au succès qui ne date pas non plus d'il y a plusieurs mois, hein. C'est quand même tout frais, ces grosses victoires contre des équipes très importantes du championnat. Donc voilà, il faut se remettre la tête à l'endroit, mais c'est vrai que voilà, c'est assez dur aujourd'hui de voir du positif.
Ouais, c'est ça, c'est que deux défaites, on va dire, qui ont une incidence assez importante. Et puis tu le disais, donc il y a eu plusieurs causes, et en plus ce week-end qui a très probablement c'est, on va dire, l'avenir de la Liga, puisque avec la défaite du Barça, c'est vrai que du coup Madrid maintenant est à 15 points, même si le Barça, on rappelle, a toujours un match en moins qui sera joué contre le Rayo en fin de semaine. Donc effectivement, ça aussi scellé en même temps un peu sûrement l'avenir de cette Liga. Il reste très peu de matchs à jouer, effectivement un acquart assez conséquent pour le Real. Mais donc le Barça, tu le disais, va devoir se reprendre face à cette Real Sociedad. Et bah, justement, Lucas, je vais revenir avec toi, puisque c'est vrai que la Real Sociedad, on l'a déjà un peu évoqué dans les podcasts précédents au cours de cette saison. C'est vrai que cette Real Sociedad est quand même très solide en défense. On parle quand même d'une équipe qui a fait énormément de clean sheet. Mais par contre, qui a aussi contre les gros, des fois, pris beaucoup de buts. Est-ce que pour toi, justement, tu vois dans ce Barça, on va dire, l'adversaire idéal, l'adversaire parfait pour y remédier à tous ces problèmes? Et même, comme Sacha le disait un peu, c'est vrai que le Barça a eu des problèmes défensifs. Est-ce que toi, justement, tu penses aussi que ça peut être un moyen d'en profiter sur ce match-là?
Bah, pour parler des matchs contre les gros, cette saison, je crois, bon, il y a une stat assez terrifiante, c'est que on n'a pas de victoire contre le top 9 en Liga, ce qui est assez inquiétant si on veut prétendre à des places prestigieuses et à des compétitions prestigieuses. Donc oui, le Barça, on se dit qu'avec leur petite méforme du moment, on peut peut-être créer la surprise, ou même, enfin, s'ils sont pas en forme, juste les battre. Mais à chaque fois qu'on se dit ça et qu'on s'apprête à jouer un Barça un peu malade, comme par exemple pour le premier match de la saison, on se permettait de rêver, ben à chaque fois le Barça nous douche et nous met leur tarif, c'est au moins 4 buts. Donc maintenant, je vais peut-être y aller avec un peu plus de prudence et espérer, ben, toujours la victoire, mais ça va être forcément un match compliqué, donc toujours contre le Barça. Eux, défensivement, c'est compliqué. Mais c'est compliqué offensivement pour nous parce que on marque pas beaucoup malgré le fait qu'on défende bien. On n'arrive pas à marquer énormément de buts. Donc il faudra voir qui va être le pire entre la défense et l'attaque jeudi soir. Mais en tout cas, je pense que ce qui nous permet quand même de rester fort contre les gros, c'est quand même, oui, comme tu l'as dit, notre défense qui prend très peu de buts, mais quand elle se met à craquer et quand le mental n'y est plus et quand tout le monde se arrête de jouer, comme on l'a vu contre le Betis, contre l'Athletic, ou comme on l'a vu contre le Barça en début de saison, ben on commence à prendre 1, 2, 3 ou 4 buts. Donc j'espère que jeudi on ira avec l'envie de gagner et avec la rage au ventre pour espérer ne gagner et surtout et ne pas prendre une déculottée fa face à notre public.
Ouais, tout à fait, tu parles enfin, de sport moral d'ailleurs, un peu, on va dire, du fait que physiquement et mentalement, surtout principalement, c'est vrai que cette équipe, vous nous l'aviez dit un peu, c'est aussi d'ailleurs ce que Gurvan, qu'on salue d'ailleurs, nous avait aussi un peu dit dans le space qu'on avait organisé pendant la trêve. C'est vrai que au 2-0, on sent que cette équipe, des fois, peut parfois lâcher. Et en tout cas, tu l'as dit, il faudra être solide pour ce match. Et puis, bon, on va passer à une dernière question avec le Barça avant de parler du match vraiment en lui-même avec plus de détails. C'est vrai qu'il y a quand même eu, Sacha, ces derniers jours aussi, une actualité un peu embêtante, c'est l'absence de Pedri, justement. Est-ce que pour toi, elle met en péril la qualification du Barça pour la Ligue des Champions? Donc, autrement dit, est-ce qu'elle met en péril la place du Barça dans le top 4 selon toi?
Ben c'est factuel en fait. Je veux dire, on a commencé la saison avec Pedri sous Ronald Koeman, puis il s'est blessé. Et là, ça a été vraiment la traversée du désert. Même les premiers matchs de Xavi, bon, il y a aussi d'autres circonstances pour expliquer cela. Mais même ces matchs-là n'étaient pas non plus exceptionnels dans le contenu. C'était souvent des résultats aussi en dents de scie, avec pas mal de matchs nuls et même une défaite contre le Real Betis, qui était jusque-là notre dernière défaite, qui datait de début décembre, très justement. Et oui, on voyait un Barça qui avait quand même beaucoup de mal à la construction, même un Frenkie de Jong et un Busquets qui étaient quand même beaucoup plus handicapés sans lui. Puis il est revenu et on a vu, ben, tout d'abord contre le Real Madrid en Super Coupe d'Espagne, que le jeu du Barça avec lui, c'était autre chose, qu'il avait vraiment beaucoup plus de vie, beaucoup plus de créativité, et il n'a cessé de monter en puissance, et il a été bien évidemment l'homme de ses superbes résultats contre l'Atlético, contre Naples, contre l'Athletic Club, désolé Ruben, contre
Ah
Valence, contre le Real Madrid lors du Classico, cette victoire 4-0. Voilà, c'est un joueur qui a permis à toute cette équipe de vraiment se bonifier, d'aller chercher des résultats qui paraissaient inespérés à un certain moment de la saison. Donc oui, on est forcé de constater que sans lui, ça va être beaucoup plus compliqué. Même face à Francfort, il y avait 2-0 à la mi-temps. Il est sorti à la mi-temps. Au final, il y a eu 3-2. Ça, c'est la lecture statistique du match. Mais le moment du match où on a pris le plus la marée et l'eau, c'est vraiment ce début de seconde mi-temps où là, Francfort a vraiment pléthore d'occasions. Il n'est plus du tout là. Notre milieu n'est absolument plus structuré. Et c'est une véritable catastrophe, même si Frenkie de Jong avait, pour la peine, été très bon. Et hier, encore une fois, face à Cadiz, on a vu un milieu de terrain qui manquait cruellement de créativité. Des joueurs qui essayaient, tant bien que mal, mais il n'y avait pas la même conduite de balle, pas les mêmes appels déclenchés en face. Enfin, c'était vraiment complètement différent. On se rend compte aujourd'hui à quel point Pedri est vraiment fondamental pour cette équipe. C'est un joueur différentiel. Voilà, il apporte de par son football de vraies différences. Il est au-dessus du lot. Voilà, ça se revérifie encore. Et je pense que ce serait une grosse, grosse, grosse épine dans le pied pour Luis Enrique s'il ne pouvait pas compter sur lui pour la Nations League et même plus tard pour la Coupe du Monde en cas de rechute. Donc voilà, c'est vraiment un joueur qui donne vie et caractère à cette équipe malgré son jeune âge. Il avait progressé dans énormément de domaines, il était même devenu décisif devant les buts, hein. C'est ce qu'on lui reprochait lors de la première année, il ne frappait pas beaucoup. Là, notamment contre Séville, contre Levante, il y avait aussi un but contre cette équipe de Valence à Mestalla alors que le Barça était dans la difficulté. Voilà, c'est vraiment un joueur qui avait pris pleine possession de ses qualités, qui était devenu un leader technique de cette équipe. Et alors, voilà, je pense que c'est vraiment un coup dur. Maintenant, est-ce que le top 4 est en péril? Forcément, on a beaucoup moins de certitude, hein. C'est sûr que quand une équipe perd son meilleur joueur, c'est jamais facile. Et je pense que Lucas est très bien placé pour nous en parler avec Mikel Oyarzabal, comme on a justement parlé il y a quelques minutes. Mais je pense que la mission est quand même possible. Voilà, il va y avoir le retour d'Ansu Fati d'ici les toutes prochaines rencontres. On a vu aussi pareil que lui, dès qu'il retouche un ballon, il est à nouveau décisif et qu'il change aussi l'animation offensive de l'équipe. Il y a des joueurs de très très bon calibre, des joueurs qui ont aussi réalisé des performances de haute volée durant cette période faste du Barça cette saison. Donc je reste confiant pour le top 4, mais c'est vrai indéniablement que la perte de Pedri doit donner de sérieux maux de tête à Xavi vis-à-vis des objectifs de la saison.
Exactement, ouais, un joueur, bon, tu l'as très bien dit, qui a une pièce dans ce Barça, et même avec l'Espagne, effectivement, tu l'as bien résumé. Un joueur dont on peut difficilement se passer, mais donc on comprend donc selon ton point de vue que même si évidemment c'est une perte importante, le Barça pourra tout de même se qualifier dans le top 4. Je vais rester avec toi déjà parce qu'on parlait justement des absences et des blessures, donc on parlait de Pedri à l'instant. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur les absents pour cette rencontre et puis éventuellement aussi les retours de joueurs.
Alors au niveau des absences, il devrait aussi y avoir encore Ansu Fati. Alors le groupe n'est pas encore tombé au moment où on se parle, mais tous les médias s'accordent à dire qu'il devrait revenir contre le Rayo en fin de semaine. Donc on peut penser qu'il ne sera pas là contre la Real Sociedad. En plus, que ce qui se dit, c'est que le club ne veut pas prendre le moindre risque, et le faire reprendre à Anoeta, ce serait quand même assez risqué. Donc à moins qu'il ait des sensations extraordinaires dans l'entraînement, je pense pas qu'il sera du voyage pour San Sebastian. On a aussi bien sûr Samuel Umtiti, Sergi Roberto qui est également blessé. Voilà, les blessés de longue date, on les connaît. Du côté des retours, on a Ronald Araujo qui était suspendu contre Cadiz. On a normalement Gérard Piqué, et ça va faire vraiment beaucoup beaucoup de bien à cette équipe du Barça de pouvoir retrouver peut-être son capitaine spirituel sur le terrain et l'homme qui avait aussi contribué à consolider cette défense. Donc là, on va vraiment retrouver notre charnière titulaire, ça fait vraiment plaisir. Et puis après, je pense que j'ai été assez complet sur les blessures. Je ne vois pas d'autres joueurs qui pourrait manquer à l'appel. Pas d'éventuelle rechute pour Memphis, ça lui était arrivé, mais il a bien fini le match contre Cadiz, du moins quand il a été remplacé. Donc voilà, au niveau des retours et des absences, c'est tout ce qu'on peut constater du côté du Barça.
Yeah, parfait, bah, merci beaucoup pour ce point complet. Puis bah, je vais te poser la même question, Lucas. Alors, c'est vrai qu'on parlait d'Oyarzabal tout à l'heure dans les absents, donc. Mais voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur, bah, pareil, sur les absents et puis les retours de joueurs pour cette rencontre?
Bah oui, donc on a Mikel Oyarzabal blessé, donc tu l'as dit, et je crois peut-être la pire nouvelle qui pouvait nous arriver, donc enfin, on savait déjà un peu, mais c'est David Silva qui est suspendu contre le Barça suite à son rouge la semaine dernière, contre, enfin lors du dernier match contre le Betis, donc que le club avait fait appel, mais finalement ça a été refusé, donc c'était un rouge assez litigieux, donc c'est pour ça que le club s'était permis de faire appel, mais bon là. La Ligue a refusé, donc David Silva qui est en forme en ce moment va être absent. Et sinon, on a tous nos absents de longue date, hein, comme Barrenechea, Carlos Fernandez, Nacho Monreal, qui sont absents. Et sinon, pas de retour particulier. Ah, si, José Basaldúa qui revient dans le groupe. Et voilà, c'est tout pour les absents.
Ok, bah merci beaucoup, bah c'est parfait aussi pour ce point complet. Puis, et puis bah avant de passer au pronostic, on va faire comme on a l'habitude de le demander, voilà, bah, un petit aperçu, on va dire, personnel du match. Je commence avec toi d'abord, Sacha, si tu veux bien. Comment tu vois ce match pour le Barça, même si on a commencé à donner quelques éléments de réponse, comment tu le vois, et puis éventuellement, voilà, si tu as un élément à donner pour faire basculer cette rencontre.
Je le vois très très compliqué. On se disait juste avant le podcast que malgré le, alors sans compter plutôt, c'est plus justement dit le faux pas contre Cadiz, c'était vraiment le match sur cette fin de saison qui me faisait très peur. Faut se rappeler quand même que dans notre histoire récente, on a beaucoup beaucoup de mal à Anoeta, même si bon, on s'était imposé 6-1 l'année dernière, que sous Valverde, on avait retrouvé la victoire. Voilà. Sous Pep Guardiola, sous Luis Enrique, ça avait vraiment été très très compliqué d'aller gagner là-bas. On avait souvent des matchs où on perdait des points et même où on perdait tout court. Donc c'est toujours un terrain qui est vraiment très très compliqué quand on regarde le calendrier du Barça chaque année. Bon, on coche bien évidemment les matchs contre le Real Madrid et l'Atlético, mais il y a aussi des matchs contre les deux Basques, hein, les déplacements à San Mamés et à Anoeta, c'est jamais jamais facile. On sait qu'on affronte des guerriers en face qui laissent tout sur la pelouse, donc c'est toujours toujours compliqué. Et puis là, voilà, comme on l'a dit, sans Pedri, avec le moral qui est touché, c'est vrai que c'est un match qui s'annonce vraiment difficile. Je ne vais pas être très optimiste, très sincèrement. Je pense pas que le Barça aujourd'hui a ce qu'il faut pour vraiment arriver confiant du côté de Saint-Sébastien. C'est un match qui va évidemment se jouer au milieu de terrain. On sait que bon, ils ont perdu David Silva, mais Mikel Merino est dans une forme vraiment très 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 impressionnante. Il y a Zubimendi, il y a Rafinha qu'on connaît bien. Rafinha en plus qui aime bien punir le Barça. On se rappelle d'un coup franc avec le Celta lors de la reprise Covid de la saison 2019-2020. Donc ça va être encore une fois sur ce secteur de jeu que tout va se jouer. Il va falloir que les joueurs de Xavi soient capables de mettre le pied sur le ballon et d'enfin imprimer leur rythme. Sans Pedri, ce qui n'a pas vraiment été le cas contre Cadiz. On avait vu beaucoup de carences avec des joueurs qui n'étaient pas vraiment dans leur meilleure forme. Il va falloir rebondir sur ce match, mais c'est vrai que je pense que les forces en présence de la Real Sociedad peuvent vraiment mettre à mal le Barça, parce que je pense qu'aussi sur les contres, les flèches lancées sur Porto, sur Januzaj, sur Alexander Isaac, ça peut vraiment faire beaucoup beaucoup de mal à la défense barcelonaise, même si, comme je l'ai dit, on récupère notre charnière titulaire. Voilà, c'est un match qui, je pense, va être très compliqué. On va avoir la possession territoriale et même la possession de balles plus généralement, mais il va falloir vraiment arriver à gérer nos temps forts et nos temps faibles. Et je pense que la Real Sociedad a vraiment toutes les armes pour nous mettre à mal dans cette rencontre. Après, si j'avais un joueur qui pourrait faire basculer cette rencontre côté Barça, je dirais ben, au milieu de terrain, Frenkie de Jong, parce que ça reste, à mon sens, maintenant que Pedri n'est plus là, notre meilleur milieu de terrain, même s'il n'a pas fait une bonne performance contre Cadiz. Je pense que c'est vraiment un joueur qui peut répondre physiquement et techniquement ben, à ses adversaires du jour du côté de la Real. Et un autre joueur, pourquoi pas, Pierre-Emerick Aubameyang, qui reste sur des performances là encore aussi décevantes, mais qui a montré qu'il pouvait être un tueur et qu'il pouvait vraiment faire du mal à une défense sur ses appels. Donc voilà, Pierre-Emerick Aubameyang et Frenkie de Jong, sans oublier peut-être aussi Ousmane Dembélé, qui lui par contre a été le seul Barcelonais à faire un bon match contre Cadiz il y a à peine 24 heures, mais un match très très compliqué où il faudra mettre le pied sur le ballon, imprimer notre jeu, imprimer notre rythme et ne pas laisser vraiment beaucoup d'espace aux attaquants de la Real qui seront bien évidemment les exploiter au maximum.
Et bien parfait, donc ouais, un match assez difficile, tu l'as dit, avec des joueurs comme Frenkie de Jong, notamment comme Dembélé, qui pourraient être décisifs. Lucas, je te passe la parole maintenant pour la même question. Voilà, comment toi tu vois ce match aussi, difficile ou pas, plutôt abordable, comment tu le vois? Et puis bah, pareil, l'élément à citer, on va dire qu'il soit, on va dire, un joueur ou un élément plus global qui pourrait faire basculer ce match, je te laisse nous donner ça.
Les matchs contre le Barça sont jamais faciles, donc je vais pas dire que ça va être une promenade de santé, mais je vois des équipes qui ont envie de jouer, donc ça va pas être un match fermé comme on a l'habitude, nos deux équipes de jouer contre des équipes plutôt bloc bas, donc ça va être un beau match, je le sens, donc avec des buts où il y a des faiblesses de chaque côté, donc pourquoi pas, enfin je pense qu'elles vont être exploitées et ça va donner un lieu à un match animé et sympa à voir. Mais donc pour la Real, on arrive face à un Barça un peu en difficulté et nous on arrive quand même avec une petite confiance parce qu'on a fait un bon résultat contre le Bétis, on a su renverser la situation contre Elche, donc on arrive quand même avec un capital confiance qui est pas trop mal, et on se dit que si on peut faire le coup contre le Barça qui vient de se faire éliminer d'Europa League, qui vient de perdre contre Cadiz, on peut le faire, surtout que c'est, comme on l'a dit avant, c'est un match qui peut définir notre fin de saison, et je pense que les joueurs contre le Barça auront à cœur de livrer une grosse grosse performance Malgré, enfin, Sacha parlait de nos joueurs offensifs, donc justement en ce moment c'est un peu le problème. On n'arrive pas trop à marquer. Normalement notre star Alexander Isak est pas excellent en ce moment, mais Alexander Sorloth arrive à revenir à un bon niveau. Donc pourquoi pas lui pour déclencher des situations. Sinon, oui, comme l'a dit Sacha, il y aurait une bonne bataille du milieu. Donc nous, on a vraiment, même avec la perte de David Silva, un très bon milieu avec Merino, Rafinha et Zubimendi. Donc c'est des joueurs qui ne rechignent pas à jouer tous les ballons, à donner leur corps pour récupérer un ballon ou pour pouvoir faire une passe. Et surtout, nous, notre point fort, c'est vraiment notre défense très solide. Donc avec Robin Lenormand, en ce moment c'est plutôt Zubeldia et Alexis Remiro qui réalisent des très très bons matchs en ce moment, et même Robin Lenormand se met à marquer, donc si font les deux, c'est parfait, mais ça va être un beau match, mais quand même un match à enjeu, et j'espère que l'enjeu ne tuera pas le jeu pour ces deux équipes qui ont absolument besoin de gagner le jeudi pour pouvoir s'assurer une bonne fin de saison et lancer leur fin de saison sur les bons rails, quoi.
Exactement, et puis donc ça, on pourrait résumer un match, on va dire décisif pour la fin de saison, mais surtout ouais, pour l'Europe, même si c'est vrai qu'on parle plutôt de des champions pour les deux équipes. Ça sera en tout cas un match très intéressant à suivre. Et puis bon, on va conclure avec les pronostics. Je vais commencer d'abord avec toi, Lucas, si tu veux, ton pronostic pour cette rencontre.
Comme j'ai dit, moi je veux un match animé, et je pense qu'il y aurait un match animé. Et donc dans les matchs du Barça ces derniers temps, il y a eu pas mal de buts. Donc moi je vois bien une victoire 3-2 pour la Real Sociedad. Donc c'est une cote élevée, mais ça nous assurait un beau match. Et franchement, au vu des récentes performances des deux équipes, c'est pas un score tant irréalisable que ça. Donc moi je vois bien une victoire 3-2 de la Real Sociedad.
Une victoire 3-2, donc un match avec pas mal de buts. Et puis ça, je te passe la parole également pour ton pronostic.
Ah, c'est vrai que les pronos, c'est toujours une sacrée épreuve, mais je vais rester en phase avec mon discours Et donner un prono réaliste, je vois bien un match nul dans cette rencontre. Peut-être un partout, peut-être deux partout. Mais par contre, je rejoins totalement Lucas sur le fait qu'on verra un match très offensif qui risque de vraiment plaire au public parce que Imanol et Xavi, ce n'est pas des entraîneurs qui ont dans leur philosophie de rester derrière et de consolider un bloc défensif. Donc ça va jouer, ça c'est sûr. Et je pense qu'on peut avoir quand même un match qui sera une bonne publicité pour le foot espagnol qui en a quand même bien besoin d'une bonne publicité suite au dernier, comment dire, aux dernières polémiques arbitrales qui viennent polluer week-end après week-end la Liga et qui sont un peu désagréables. Donc voilà, un peu de jeu, ça ferait vraiment du bien.
Ouais, totalement. Et puis bon, c'est vrai que oui, tu l'as dit, ces polémiques qui entachent un peu l'image de la Liga. On en parle beaucoup beaucoup trop, mais effectivement beaucoup d'erreurs, beaucoup d'incompréhensions. Et puis bah moi pour ma part, je vais partir sur un pronostic qui te ressemble un peu au tien, Sacha, un match nul, un partout, qui me paraît assez cohérent vu tout ce que vous avez dit. Et puis effectivement, c'est vrai qu'on parle de deux équipes quand même qui, comme Lucas le disait également, aiment bien jouer et ont tendance quand même à proposer quelque chose généralement. Et donc voilà, je pense qu'on aura un beau match avec pas mal d'action et après un match nul un partout, c'est pareil, ça me semblerait être quelque chose de plausible, on va dire, pour ce jeudi soir. Et bien, il va être temps pour moi en tout cas de vous remercier de conclure ce numéro, ce bon numéro d'ailleurs pour un match en semaine qui promet donc d'être très intéressant et avec des enjeux très très importants. Je vais commencer par te remercier d'abord, Lucas, d'être revenu nous parler de ta Real Sociedad. C'était encore un plaisir de te recevoir à nouveau.
Bah, merci beaucoup pour l'invite, hein. Toujours un plaisir de venir parler de mon club sur votre compte, enfin sur vos antennes. C'est toujours un plaisir, surtout quand les débats sont éclairés. Et je suis super content et j'espère qu'on aura droit à un beau match jeudi soir.
Exactement, et puis bah je te passe également la parole, Sacha, pour te remercier d'être venu de nouveau dans nos podcasts pour parler du Barça. Merci beaucoup à toi d'être passé.
Le plaisir est pour moi. En plus, souvent dans ces semaines compliquées, on a besoin de parler, on a besoin d'évacuer. Voilà, ça m'a fait du bien de dire ce que j'avais sur le cœur, sur les récents événements du côté du Barça. Voilà, ça fait partie de la thérapie Ligue Actu. On va appeler ça pour la saison prochaine. Voilà, avec un SOS aux supporters malheureux qui veulent venir parler. Mais non, non, plus sérieusement, c'est vraiment toujours un plaisir. Voilà, on a hâte d'être quand même devant ce match parce que, comme on l'a dit, ça va vraiment être, je pense, une belle rencontre, difficile, mais une belle rencontre. Et puis surtout, surtout, ne pas oublier le bonjour au Capi, hein, Gourvan, qui va sans
Ouais.
doute nous écouter l'autre voix de la Real Sociedad en France
On le salue.
par notre biais. Donc voilà, on le salue. Et puis, moi, je ne lui souhaite pas de bonheur devant le match. Hein, désolé, Lucas, mais
Bon.
voilà. Ça fait toujours plaisir de le mentionner et de continuer surtout cette superbe aventure avec Ligue Actu, des podcasts et de vous proposer tout ça. Merci à tous et bon match.
Tout à fait, voilà, merci beaucoup à tous et puis on espère que vous aurez apprécié ce numéro. N'hésitez pas à le partager comme on a l'habitude de le dire. Et puis bah, voilà, un bon match comme le disait Sacha, aussi bien aussi par l'air de la Real que du Barça. Et puis on se dit en tout cas à très bientôt pour un nouvel épisode.